Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, les conditions d'endormissement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici de retour. Aujourd'hui, c'est une super belle journée. On fait donc l'enregistrement dehors, sous le soleil. Alors, peut-être que vous entendrez des petits oiseaux derrière moi, mais ceci étant dit, j'avais envie de vous communiquer cette belle énergie printanière. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui revient souvent dans les questions, c'est-à-dire... Est-ce que je suis bien en mesure ou est-ce que l'on peut être bien en mesure de repérer les conditions d'endormissement de notre enfant ou de nous-mêmes? Premièrement, est-ce que vous savez ce que sont que les conditions d'endormissement? Est-ce que vous avez déjà observé quelles étaient-elles pour vous, mais aussi pour votre enfant? Est-ce que vous avez observé comment ça se passait si vous ne retrouviez pas ces mêmes conditions d'endormissement ou, par exemple, vous changez de lieu, vous changez, de position parce que vous avez une blessure, vous êtes forcé de dormir dans une autre position de sommeil, par exemple? Est-ce que vous avez déjà expérimenté un peu autour de tout ça? Alors, c'est ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui parce que j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet. Donc, c'est un SOS qui répond, une réponse à un SOS de plusieurs personnes en même temps. Alors, on va commencer par le début, à savoir ce que sont les fameuses conditions d'endormissement. Et pour ça, je vais vous inviter à penser peut-être à un animal de compagnie que vous auriez à la maison ou que vous avez déjà vu ou que vous avez pu observer. En fait, si vous regardez par exemple un chien ou un chat qui doit aller dormir, que ce soit dans la journée ou en après-midi ou en soirée, parce que chez les animaux comme les chiens, les chats, on parle d'un sommeil polyphasique, donc en plusieurs petites phases de jour et de nuit. Est-ce que vous avez remarqué comment il se comportait? Donc, est-ce que, par exemple, votre chien, votre chat ou un autre animal retourne toujours au même endroit, se met toujours dans la même position? Il va toujours à peu près à la même heure, même s'il n'a pas l'heure lui-même, évidemment, il n'a pas de montre, mais il ressent ce besoin-là à la même heure. Et si c'est le cas, ben c'est parce que son horloge biologique est effectivement très, très bien réglée, contrairement à plusieurs êtres humains qui, eux, ont tendance à se fier à leur montre plutôt qu'à leur horloge interne. Les animaux, comme ils n'ont pas de montre, les autres animaux, parce que les humains font aussi partie du règne animal, doivent se fier à 100% à leur horloge interne. Alors, forcément, ils suivent leur rythme et leurs besoins naturels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des comportements qui se répètent, qui sont récurrents en lien avec le processus d'endormissement. Alors, par exemple, vous avez des chiens, puis à la même heure environ, il vient faire un tour autour de vous, il vous demande de l'accompagner pour aller ouvrir la porte de l'endroit où il dort, par exemple. Et ça survient systématiquement à la même heure. Et là, il va se faufiler de son côté préféré, il va prendre sa position préférée, généralement c'est en petite boule, c'est très rare qu'on va voir des chats ou des chiens dormir complètement étendus sur le dos. Alors bref, on voit déjà qu'il y a un rituel, qu'il y a des conditions qui se mettent en place pour permettre à l'animal de compagnie d'entrer dans le sommeil. Et d'ailleurs, on va voir qu'il va avoir tendance à faire à peu près la même chose s'il dort durant la journée ou en soirée. Mais parfois, il y a des animaux de compagnie qui vont, par exemple, faire la sieste sur le canapé puis qui vont dormir en soirée dans un lieu, une petite cabane qui leur serait destinée. Donc, déjà, ça vous donne une idée de voir que, oui, il y a des comportements qui se manifestent en marge du sommeil. Mais pour comprendre quelles sont les conditions d'endormissement, effectivement, il faut comprendre que ce même chat, ce même chien, si, par exemple, on le mettait dans un lieu complètement différent, qu'on l'empêchait de prendre sa position favorite, ben forcément, il résisterait. Il serait pas en mesure de s'endormir aussi facilement. Alors, dans certains cas, ils ne seraient pas capables de s'endormir du tout. Donc, ça dépend toujours du niveau de tolérance ou d'adaptabilité au changement. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces comportements-là, ils existent aussi chez nous et chez nos enfants. Mais on a tendance à ne pas les remarquer ou en tout cas à pas prendre suffisamment le temps de les observer. Et pourtant, c'est une mine d'or d'informations. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous parle de moi comme adulte, qui peut être différent évidemment d'un adulte à l'autre, mais de mon côté, j'ai remarqué que lorsque j'allais me coucher, je me couchais sur le dos. Je commençais par délier complètement les muscles de mon dos, en fait étendre la colonne et tout ça, mais que je ne m'endormais pas sur le dos. Après un petit bout de temps, j'avais tendance à me tourner sur le côté, me recroqueviller pour m'endormir. Et ça, je le fais toujours du même côté du lit, à peu près à la même heure, dans le même type de matière aussi. Et dans cet ordre-là, parce que si je décidais de me coucher sur le côté sans m'être étendu sur le dos avant, bien possiblement que je sentirais des douleurs dans le dos, puis j'aurais tendance à me remettre sur le dos, puis recommencer la séquence. Donc ça, c'est moi qui ai une scoliose d'ailleurs, donc une condition particulière au dos. Mais par exemple, si je vous parlais de quelqu'un d'autre, que ce soit un conjoint, un enfant, tout ça, mais peut-être que l'autre personne se couche d'emblée sur le côté et pas du même côté que moi, elle va se coucher sur le côté opposé, autant le côté du lit que le côté en fait positionnel qu'elle va choisir. Et finalement, ben, peut-être qu'elle va s'endormir carrément dans cette position-là, alors que quelqu'un d'autre va peut-être changer 3 fois de position à chaque fois avant de s'endormir. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on a certains facteurs qui vont nous prédisposer à entrer dans le sommeil. Et c'est ce qu'on appelle les conditions d'endormissement. Donc, chez un bébé, chez un enfant, chez un adolescent, chez un adulte, ça va aussi se refléter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, des gens qui vont préférer, je sais pas, avoir beaucoup, beaucoup de couverture, avoir très, très chaud. D'autres qui vont, au contraire, avoir besoin d'avoir le moins de couverture possible, qui ne supporteront pas, par exemple, la lourdeur, la sensation de lourdeur sur leur corps, alors que d'autres en ont besoin pour s'apaiser. Donc, tout ça, c'est variable. La température aussi ambiante va être variable. Évidemment, en matière d'endormissement, on va toujours recommander plutôt une température entre les 16 et les 20 degrés environ, mais il y a des gens qui s'endorment dans plus frais et d'autres dans plus chaud aussi. Donc, ça dépend aussi de la température interne. Mais si on revient là, on fait le tour de tout ça pour revenir à l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que chacun, chacune, on a des conditions environnementales et aussi ben, peut-être un peu qui viennent de notre posture, de notre position physique, qui vont nous prédisposer au sommeil. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, dans certains cas, ça peut empêcher complètement l'endormissement. Alors, moi qui suis quelqu'un qui a souffert d'insomnie chronique pendant plus de 20 ans, évidemment, je sais que je suis fragile sur ce point-là et j'essaie vraiment d'être disciplinée, d'être rigoureuse parce qu'il s'agirait qu'un soir, je dorme, par exemple, dans une tente à l'extérieur et que je n'ai pas le même type de confort ou en tout cas qu'il y ait plus d'humidité, qu'il y ait des moustiques, qu'il y ait pour peut-être m'empêcher de dormir pour toute la nuit. Parce que je suis quelqu'un qui déjà a beaucoup de difficultés à s'endormir facilement, même dans les bonnes conditions. Donc, par exemple, si je parle des gens qui prennent l'avion, je prends l'avion régulièrement, mais je n'ai jamais réussi à dormir dans un avion. Peu importe que les lumières soient allumées, éteintes, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, que j'ai des bouchons pour les oreilles ou non, je n'ai jamais réussi à m'endormir dans un avion. Alors qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est très, très facile. Donc, quand on est conscient de tout ça, quand on est conscient de ce dont on a besoin, les ingrédients qui nous permettent d'entrer dans les portes du sommeil, comme on le dit parfois dans l'adage, bien, ça nous permet aussi de les recréer d'un lieu à l'autre. Et si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que c'est la même chose pour les enfants. Donc, évidemment, chez un bébé, chez un enfant, il va se sentir... le cerveau va lui envoyer les messages de se laisser aller au sommeil quand il va sentir que ses conditions d'endormissement sont bien réunies. Alors, c'est pourquoi il y a des séquences parfois qui sont très, très précises, un rituel qui est très, très précis chez les enfants pour désamorcer l'anxiété de séparation, désamorcer la peur de l'inconnu, la diffusion d'avec les parents durant la nuit parce que c'est une séparation et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe si l'enfant, par exemple, se réveille en plein milieu de la nuit, ses parents ne sont plus là? Et il ne retrouve plus les conditions dans lesquelles il s'était endormi. Par exemple, il s'était endormi dans son lit et il se réveille, il est rendu dans la voiture, par exemple. Ou alors, il se réveille au même endroit, mais il s'est endormi avec ses parents à ses côtés, ses parents ne sont plus là. Bien sûr, il va avoir un petit moment, généralement, de panique. C'est pas une panique épouvantable à tous les coups, ça dépend aussi du tempérament, mais c'est fort possible qu'il y ait des pleurs à ce moment-là parce que l'enfant ne se retrouve plus dans les conditions dans lesquelles il s'était endormi. Et c'est là qu'il va réclamer à nouveau ces conditions-là parce qu'il veut se rendormir. Et là, il est un peu déboussolé. Un peu de la même façon que si, par exemple, vous vous endormiez avec votre conjoint, votre conjointe, dans votre chambre à 22h et qu'à 3h du matin, vous vous réveillez, soit vous êtes plus du tout dans votre chambre, vous êtes rendu dans un train, par exemple, ou alors vous êtes toujours dans votre chambre, mais votre conjoint a disparu. Vous allez aussi avoir un petit moment de panique. Alors, c'est ce qui se passe quand on développe un comportement en marge de l'endormissement et qu'on répète ce comportement. Lorsqu'on ne pourra plus forcément le répéter de la même façon, l'endormissement va être compromis chez bien des gens. Oui, il y a toujours des exceptions, des gens qui s'endorment n'importe où, de n'importe quelle façon. J'ai même connu une étudiante à l'université qui s'endormait, qui passait même des nuits parfois dans son casier, imaginez-vous. Alors, bref, il y a de tout dans ce monde, mais la majorité des gens vont avoir besoin quand même de retrouver leurs conditions minimales pour pouvoir s'endormir ou se rendormir. Alors, j'avais envie d'éclaircir tout ça avec vous aujourd'hui. J'espère que les mises en situation, les comparaisons que je vous donnent quelques pistes de votre côté pour pouvoir vous observer, pour que vous puissiez observer vos enfants, que ce soit des bébés, des enfants plus vieux, des adolescents, peu importe, que vous puissiez regarder ce qui fait que ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien pour se laisser aller au sommeil, ils se sentent apaisés, ou alors ce qui peut faire défaut parfois. Parce que parfois, c'est tout simplement ça, le petit problème, le petit grain de sable dans l'engrenage, comme on pourrait dire. Parfois, c'est tout simplement que, justement, l'enfant ne retrouve plus ses conditions d'endormissement et il est déstabilisé par tout ça. Et la même chose pour les adultes qui parfois vont se réveiller au milieu de la nuit, pas seulement un micro-éveil et réussir à se rendormir, mais vont se réveiller complètement puis n'arriveront pas nécessairement à se rendormir, en tout cas pas tout de suite, parce que justement les conditions idéales ne sont peut-être plus là. Que ce soit parce qu'ils ont changé de position, parce que la température interne a augmenté, parce que oui, il y a une dimension physiologique aussi aux conditions d'endormissement, mais ça peut aussi être quelque chose dans leur environnement qui a changé, soit des bruits, des faisceaux lumineux qui rentrent dans la chambre, par exemple, ou alors, je sais pas, quelqu'un qui se serait endormi à deux, par exemple, comme je le disais, et qui se retrouverait tout seul dans le lit, alors qu'il a l'habitude de s'endormir à deux, aurait peut-être plus de difficultés justement à replonger dans le sommeil. Donc, je vous invite à partir de maintenant à observer tout ça, que ce soit chez vous, chez les gens qui vous entourent, et à voir comment vous pouvez moduler ces conditions quand vous êtes dans un autre contexte. Parce que parfois, on n'a pas le choix de changer de contexte, mais il y a moyen quand même de maintenir l'essentiel, d'adapter le plus possible pour favoriser le sommeil, parce que non, tout le monde n'est pas comme moi. Il y a des gens qui peuvent dormir en avion, mais qui vont, par exemple, aller chercher une condition primordiale qui va leur permettre de dormir. Donc, si, par exemple, quelqu'un est très sensible au bruit ou à la lumière, ben il y a évidemment les bouchons pour les oreilles, il y a les masques pour la lumière, et peut-être que ça va être suffisant dans leur cas pour réussir à s'endormir. Même s'ils sont dans des conditions relativement différentes, l'essentiel des conditions d'endormissement va être maintenu. Alors que dans d'autres cas, comme les gens qui sont très, très sensibles, ben peut-être que là, ça va être un écart un peu trop grand, puis malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais dans ce cas-là, on va se dire, bon, ben on se reprend la nuit prochaine, tout simplement. On ne se met pas à paniquer parce qu'une nuit, ça n'a pas bien fonctionné. Et c'est la même chose avec les enfants. Évidemment, on fait le tout en notre possible pour faire une bonne mise en scène du sommeil, réunir les conditions d'endormissement pour qu'ils puissent aller chercher tout le sommeil dont ils ont besoin. Mais si une nuit, ça fonctionne un peu moins bien, évidemment, on va regarder ce qui fait défaut, puis on va essayer de s'améliorer tout simplement pour la nuit qui vient, pour que l'enfant puisse reprendre très bien tout le sommeil dont il a besoin. Alors voilà, donc aujourd'hui je répondais à cette question de plusieurs personnes, et j'invite tout le monde qui aurait d'autres types de questions à nous faire parvenir, à le faire dès maintenant à info@somna.ca, que ce soit pour répondre à un SOS sur votre situation en particulier ou une question un peu plus large comme aujourd'hui. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a aidé. Et de mon côté, je vous invite à me retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca. Thank you.